Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces deux heures d'infos. Nous sommes le lundi 25 janvier. Bonjour Gilles Danseman.
Bonjour Valérie.
On est ensemble en studio, direct, voilà, comme tous les jours.
Vous avez peur qu'on soit confinés, c'est ça?
Je ne sais pas, on en reparlera évidemment. On en reparlera tout à l'heure à 11h moins le quart. On va recevoir aujourd'hui Amel Bent. Amel Bent et Malika Belharibi Lemoyle, qui est cantatrice. Elle a publié Les Sandales Blanches, c'est inspiré de son histoire. Et c'est une vraiment très belle fiction ce soir avec une Amel Bent, avec une Amel Bent incroyable en comédienne. C'est vrai que c'est la première fois qu'elle a un grand rôle, donc on va en parler avec elle dans un tout petit instant. Gilles, la question du jour.
La question du jour, Valérie, est-ce que vous avez regardé la télé au jeu, ce week-end?
Oui, bien sûr.
Il y avait, vous savez, le rendez-vous, on en avait parlé d'ailleurs jeudi, de Symphonie, ce grand rendez-vous musical. Et durant ce rendez-vous musical, eh bien, il y avait du public et c'était donc un concert, puisqu'il y avait un orchestre sur scène, des chanteurs, une salle, et dans cette salle, du public. Eh bien, on vous a posé la question, est-ce que vous êtes choqués de voir du public dans les émissions de variété? Car on voit de plus en plus du public dans les émissions de variété.
Malgré l'interdiction des concerts. Alors qu'il y ait des concerts, c'est une bonne chose. Peut-être que, d'ailleurs, les gens sont testés. Il faudrait poser la question.
Ils sont tous testés, Alexandra.
Oui, mais le public?
Le public est testé. Le public est testé. Et souvent,
mais dans
parfois,
ce cas-là,
c'est
pourquoi on ne le fait pas au théâtre?
Ah, mais ça, je ne suis pas au gouvernement, madame. Interrogez les bonnes personnes. On pourra téléphoner à la ministre de la Culture. Pour l'instant, vous nous dites oui à 57%, mais non à 43%. Ça ne vous choque pas. Donc, c'est kiff-kiff. Enfin, c'est 50... Ouais. Voilà, une petite majorité à 57%. Et vous pouvez évidemment réagir sur le compte Twitter de Sud Radio. Ludovic nous dit « C'est une joie de revoir des musiciens sur scène avec un public, même masqué et distancié. » Mais en effet, pourquoi l'autoriser uniquement pour la télévision?
Voilà. C'était ma question. Voilà.
Eh bien, écoutez...
Voilà. Alors, vous pouvez aller voter sur
le compte Twitter de Sud
Radio.
Allez, on passe
au zapping.
Moi, je sais ce que vous votez.
Oui.
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
Valérie, l'information de ce week-end, c'est évidemment l'agression de ce jeune de 15 ans, Yuri. Au bout de 10 jours, Yuri sortait donc du coma et dimanche, sa mère donnait des nouvelles, de ses nouvelles, sur les chaînes info.
Ça va mieux, il commence à se réveiller, mais il n'est pas encore complètement avec nous. Il essaye de nous parler, mais il n'y arrive pas pour l'instant. Mais on sait qu'il bouge. Ce garçon sans histoire, c'est un bon élève, mais là, on ne sait pas pourquoi c'est arrivé et comment c'est arrivé. Je suis contente pour Yuri, mais je suis très en colère en même temps que ces individus, ils se promènent dans la rue. Je ne sais même pas comment les appeler, ces gens-là.
J'imagine que vous en parlerez avec vos débatteurs à 10h45 jusqu'à midi. Le troisième confinement se profile à l'horizon et cette perspective chagrine le comédien Nissa Restrup. Mais c'est surtout la façon dont les politiques nous parlent. C'était un moment fort hier soir, dans 20h30 dimanche, sur France 2.
Je suis peut-être un petit peu plus déçu ou choqué par la façon dont on nous parle. Je crois que les Français sont drôlement gentils depuis un bon moment. Depuis pratiquement une année, ils font tout ce qu'on leur demande, ils font tous les efforts qu'ils peuvent. Et on vit beaucoup dans cette relation à l'ordre brutal. On se demande, ça y est, on est reconfiné, on va retourner à l'étable, on va manger du foin et on va dormir. Et puis peut-être dans 15 jours ou 3 semaines, on sortira dans le pré pour manger un peu d'herbe. C'est pas une vie, quoi. Je veux dire, il faut être gentil avec les gens. Il faut être gentil avec les gens qui vivent ça et qui acceptent ça. Ce ne sont pas des procureurs, ce sont surtout des victimes.
Voilà. La dernière phrase est assez forte. Sommes-nous des moutons? C'est la question qu'on peut se poser. Chez Laurent Ruquier, on est en direct sur France 2. C'était le cas samedi soir. Le comédien Elie Semoun est revenu sur son poste humoristique qui a été brocardé par Twitter et amené à sa censure. Alors, c'était justement un sketch sur lequel il critiquait la censure bien-pensante. Du coup, débat avec la comédienne Sarah Forestier. Ils ont fait part de leur ras-le-bol de la dictature des réseaux sociaux. Écoutez.
En plus, c'est qui? C'est-à-dire, ils sont quoi, trois... Il y a combien de gens sur Twitter?
Mais c'est ça, c'est 0,1% de la population.
Je veux dire, les gens que je connais qui valent quelque chose.
Christophe Bourseiller.
Ce qui m'inquiète, c'est la volte-face d'Internet. C'est-à-dire le web qui était le lieu, l'espace de la liberté la plus absolue, même une liberté qui faisait peur, une liberté presque infinie, est devenu un lieu de censure. Mais incroyable, vous ne pouvez pas mettre sur Instagram l'origine du monde.
Mais surtout, c'est des galériens.
Ça va plus loin que ça. Christophe Bourseiller, ça va plus loin que ça. Twitter aujourd'hui, les réseaux sociaux,
attention à Roger, le monopole de la liberté d'expression.
Il était The Interviewer, le célèbre Larry King est mort du Covid à 87 ans, une légende de CNN. Il est parti, on se souvient de ses interviews, vous savez, avec le fameux micro, c'est lui qui a lancé cette mode.
Les bretelles.
Et les bretelles, bien sûr. Et sa voix si particulière.
We're back with my guest Sergio Bruno, whose El Palato de la Noche show will premiere this month here on Aura.tv.
Ouais. Toute une époque, hein, Larry King. Il aurait pu être interviewé par Larry King, Enrico Macias, car hier, il a montré dans 7 à 8 sa parfaite maîtrise de l'anglais.
J'étais en 68, la première fois au Carnegie Hall.
Alors
j'ai acheté un magnétophone pour apprendre les paroles anglaises de mon cœur d'attache. Look at the sun, why? Klaus never caught him, he'll soon be through. I'll come back, my love, to you.
C'est pas mal du tout. C'est un anglais plus ensoleillé.
C'était une drôle de séquence avec Enrico Macias.
Effectivement, un anglais plus ensoleillé.
Qui a beaucoup ému en parlant de la disparition de sa femme. C'est aussi un autre extrait que j'aurais pu vous passer.
Voilà, c'était déjà pas mal et très diversifié. Merci Gilles, on se retrouve dans un tout petit instant avec Amel Bent et la cantatrice Malika Bellaribi pour parler donc de cette fiction qui va être diffusée ce soir sur France 3, Les Sandales Blanches. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Média, les invités du jour.
Les invités du jour, Amel Bent qui va nous rejoindre dans un instant, chanteuse et comédienne, puisqu'on va la retrouver ce soir à l'affiche des Sandales Blanches sur France 3 à 21h05. Fiction qu'on vous recommande très chaudement, puisqu'elle s'inspire de la vie de Malika Bellaribi-Lemoyle. Bonjour Malika, vous êtes avec nous, vous êtes cantatrice, vous avez publié Les Sandales Blanches aux éditions Calman Lévy. C'est un livre dans lequel vous racontez votre histoire, pour le moins étonnante. On vous a surnommé également la cantatrice des banlieues.
Une diva dans les quartiers, la diva des cités. Mais à l'initiative, c'était plutôt une diva dans les quartiers qui venait de France Musique. Après, tout le monde a fait des déclinaisons sur ce titre.
Sur ce titre, voilà. Donc vous racontez.
Mais vous le vivez bien. Vous l'assumez.
Oui, je l'assume. Je ne veux pas vous dire que je l'aime spécialement parce que je ne fais pas que ça. Oui. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, ça fait partie de la vie.
Moi, je peux raconter, on s'est connus il y a très longtemps. Vous étiez venue sur LCI parce que, en plus d'être une très grande cantatrice, donc vous vous produisez sur scène, vous allez dans les quartiers pour monter des spectacles, pour faire chanter les jeunes des quartiers, leur faire découvrir cette musique classique, leur faire découvrir l'opéra. Donc, il y a une méthode qui est parue chez Nathan, le chant pour mieux apprendre. Parce que le chant, c'est important, vous allez nous dire pourquoi. Et puis il y a votre disque, un CD, Melting Up, avec les plus grands airs d'opéra. Donc déjà, parlons de ce que vous faites dans les quartiers, puisqu'on va le découvrir dans le film. Il y a à la fois votre vie personnelle, et puis cette action incroyable et formidable que vous menez.
Oui, que je mène depuis 20 ans. En fait, c'est un pari, quand on en avait parlé. En fait, j'enseigne l'opéra, je monte des opéras de 1h30 avec ce qu'on appelle des gens des quartier intergénérationnel. Donc je fais une réduction de l'opéra, par exemple là on fait Didon aîné, j'ai fini, on va faire La Favorite, et mon pari c'est de réunir des villes, par exemple là c'est Vaux-en-Velin, il y a Boulogne-sur-Mer, et puis il y a ceux des banlieues de Paris, enfin l'Île-de-France, à chaque fois. Et c'est toujours des adultes, quand on appelle intergénérationnel, ça va de 20 ans jusqu'à 70 ans ou plus, et puis il y a les actions dans les écoles où j'interviens, ou dans les centres sociaux avec les enfants. Et le pari, c'est que par une nouvelle pédagogie, la personne, en travaillant sur la technique vocale, qui est quand même l'intelligence émotionnelle, enfin toutes ces choses-là, je ne vais pas rentrer dans les détails, fait que la personne se reconstruit et lui permet de sortir de l'impasse où elle a l'impression qu'elle ne peut plus apprendre. Et en fait, c'est une autre méthode, et c'est aussi faire confiance à l'humain.
Mais parce que l'opéra, pour un garçon de 20 ans, c'est aussi compliqué en grande ville, en campagne, qu'en banlieue, non ?
Alors, pas du tout, parce que, par exemple, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Quand, par exemple, les jeunes qui chantent du rap, vous savez, il y a du beau rap aussi. Oui. C'est du récitatif comme dans Mozart. Quand vous écoutez les récitatifs de La Flûte Enchantée ou de La Clémence de Titus, c'est des petites phrases entre deux ou trois notes, et c'est parlé. Donc, les jeunes des quartiers écoutent cette musique et en même temps, ils s'appuient sur cette musique classique parce que beaucoup l'utilisent. Et en fait, on a des idées préconçues. Mais les gens des quartiers sont intelligents, ils entendent dans les radios, dans les films, partout de la musique classique, mais sans connaître les compositeurs. Donc en fait, la seule chose que je fais, c'est une réconciliation et de leur montrer qu'ils ont une culture. Parce que ça ne sert à rien de dire, bah, vous ne savez pas.
Et vous êtes accueillis comment ?
Moi, en général, plutôt bien. Ouais. J'ai pas de réaction négative. Peut-être le fait de ma notoriété.
Ouais.
Peut-être le fait aussi que les gens viennent dans les ateliers et que c'est assez ludique. Et puis c'est à Paris, parce que quand je monte l'opéra, je le mélange avec des professionnels. Par exemple, là, on avait fait avec l'Opéra de Paris, on a associé les gens de l'Opéra de Paris.
Mais à l'inverse, vous rappez, vous ?
Comment ?
Est-ce qu'à l'inverse, vous avez essayé d'apprendre à rapper ? Vous leur apprenez l'opéra et à chanter ?
Pour moi, c'est pas trop difficile, puisque je viens de vous dire que c'est du récitatif.
Récitatif, oui, c'est ça.
C'est du récitatif, donc c'est du texte que vous faites en récitant, et puis vous jouez sur les notes et sur les machins. Je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de l'école de Saint-Cyr. Et les jeunes qui font ça, ils le savent. Ils ne sont pas idiots.
Ils se retrouvent...
Il y a plein de compositeurs de rap qui s'appuient sur ce type de musique.
Alors, on est en ligne avec Amel Bent. Bonjour Amel Bent.
Bonjour.
On vous a fait une petite surprise. On a invité Malika également. Malika Bellaribi.
Bonjour. Tellement heureuse de t'entendre, Malika.
Bonjour.
Bon. Alors, racontez-nous un petit peu, Amel Bent, comment vous êtes arrivée sur cette aventure. Donc, ce soir, les sandales blanches, je le répète, inspirées du livre de Malika, qui raconte sa vie d'une petite fille qui avait de très jolies sandales blanches, qui était obsédée par ses nouvelles sandales et qui, hélas, se fait renverser par un camion. C'est vous, Malika. Opération très, très douloureuse. Vous êtes recueillie chez des sœurs. C'est cette histoire avec votre, alors Amel, avec votre vie de cantatrice,
qui va lui faire découvrir, voilà, qui va la, vous faire
découvrir la musique classique. Amel Bent, alors comment vous avez reçu ce projet et qu'est-ce qui vous a séduit?
Je vous avoue que ce film, finalement, je l'ai fait pour Malika parce que c'est son histoire qui m'a convaincue et pas autre chose, parce que c'est pas le premier scénario qu'on m'envoyait. Ouais. Je vous avoue que je les lisais pas beaucoup, en tout cas je lisais une page sur quatre pour aller vite, parce que voilà, mon métier de chanteuse me prend beaucoup de temps, et surtout je suis pas comédienne, donc au départ je sais que ça va engager beaucoup de travail et puis une prise de risque qui va me faire qui va me mettre une pression dont j'ai pas vraiment besoin trop non plus par rapport à ce que je fais déjà. Et puis bon, j'ai lu ce scénario et j'ai été bouleversée par l'histoire de Malika. J'ai été tout en admiration de ce parcours qui est assez unique et puis je me suis reconnue aussi dans pas mal de choses et je me suis dit finalement c'est peut-être pas ça peut être le plus beau cadeau qu'on puisse me faire que de commencer, en tout cas dans cette discipline, en racontant l'histoire de Malika, pour qui j'ai tant d'admiration, vraiment. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre vous et Malika ?
À la résilience, c'est la rébellion.
Oui, c'est-à-dire avoir une histoire difficile dont normalement on ne se relève pas, et puis réussir à transformer ça en une aventure extraordinaire.
Ben oui, j'ai pas arrêté de le dire, mais vraiment, c'est vraiment la femme debout, quoi.
Ouais.
La femme debout, sans faire de jeu de mots avec ce qui lui est arrivé au départ. Ouais. Mais je lui disais, voilà, franchement, pour quelqu'un qui a eu cet accident, qui a été abîmé comme ça, de prendre tout à fait l'opposé, c'est-à-dire la route qu'elle prend, c'est la plus dure.
Ouais.
C'est la plus dure. Elle aurait pu faire de la variété et pouvoir arriver avec. Avec une nonchalance, un côté un peu abîmé, torturé. Elle choisit le classique où tout est codifié, où il faut se tenir debout, très droit, très digne. Et quand on voit la femme qu'elle est devenue, l'artiste qu'elle est devenue, moi je dis chapeau et je suis heureuse de pouvoir l'incarner. En tout cas, j'ai donné tout ce que j'avais.
Vous êtes formidable. Vous voyez, je pensais que vous aviez déjà tourné avant, parce que franchement, c'est un premier rôle tout à fait réussi. Hein.
Oui, moi je voulais demander à Amel, il y a une vraie dimension aussi très forte dans ce téléfilm, qui est peut-être un point commun que vous avez avec Malika. C'est évidemment l'importance de l'origine et des traditions. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous a pesé aussi? Vous avez souvent parlé de votre grand-mère. Est-ce que cette partie-là aussi du téléfilm vous a intéressé sur comment se libérer de certaines traditions qui racontent le film, en particulier sur l'Algérie, dans ce téléfilm?
Pour moi, c'était... c'est ce que j'ai aimé, en tout cas, la manière dont c'est amené, c'est que on traverse la vie de quelqu'un. On traverse la vie de quelqu'un avec tout ce qui fait la vie de cette personne. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de commencer la vie. Ça pourrait être une barrière énorme pour Malika, comme pour moi, mais ça ne définit pas finalement ce qui est devenu Malika. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. En fait, c'est la somme de tout ça qui a fait qu'elle est devenue Malika Bellarivi. Ouais, vous enlevez un choix, si vous enlevez une facette de cette histoire, ce n'est plus la même histoire qu'on raconte et qu'on peut raconter. Elle ne serait peut-être pas devenue Malika Bellarivi si elle était née en Bourgogne ou bien ailleurs. Sûr. Donc, de bien toute sûr. Façon, c'est pas une tare ou une chance. C'est pas bien ou mauvais d'être née à Nanterre dans les bidonvilles. Mm. C'est pas la meilleure chose ou la pire chose qui lui soit arrivée. C'est son histoire. C'est comme ça qu'elle a été écrite. Et si c'était différent, bah, elle serait différente. Ouais. Donc moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, née en banlieue, ça n'a jamais été pour moi
un handicap.
Ça n'a jamais été le handicap de ma vie. Mm. Je pense que c'est d'être née en banlieue qui a fait que j'ai aussi mon ouverture d'esprit, que j'ai aussi l'impression d'avoir fait le tour du monde, alors que j'avais jamais pris l'avion jusqu'à je sais pas quel âge. Je veux dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être au monde.
C'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on en fait et la manière dont c'est.
C'est comme aux cartes. Oui. On vous donne les cartes et puis après c'est la manière aussi, à la fois dont vous les utilisez. Et puis, ce que vous piochez aussi, voilà, il y a aussi une part de chance, une part de, il y a quelque chose qu'on ne peut pas non plus décider.
Malika Bellarivi.
Par rapport à cette question, c'est ça.
Oui.
Je vais rejoindre un peu Amel. C'est pas une question où on est né. Je pense que c'est une question de ce qu'on rencontre. La vie, elle est complexe. Elle est pleine de contradictions. Et en fait, c'est effectivement ce que vous dites, c'est ce qu'on en fait. Et moi, j'ai confiance dans l'humain.
Amel Bent, est-ce que l'opéra, c'est quelque chose qui vous parlait?
Non, moi, je vous avoue que je me suis endormie une fois avec la musique classique quand j'étais jeune. J'en ai fait des cauchemars. Donc, c'était une musique vraiment qui pour moi, déclenche des choses vraiment à l'intérieur. C'est très profond comme musique. Et c'est vrai que j'avais entendu évidemment, comme tout le monde, les grands airs. Mais là, j'ai pu rentrer dans le détail et j'ai vraiment découvert un univers que je connaissais pas, qui pouvait même me faire un peu flipper. Et puis surtout, ce que j'ai découvert, c'est me mettre au diapason, m'aligner à la respiration de quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est la voix de Malika que je suis tout le long de ce tournage. J'ai vécu avec elle pendant des mois dans mes oreilles pour m'aligner à sa respiration, à ses silences, à ses émotions, parce que c'est sa voix que je chante. Et c'est très compliqué quand on est déjà soi-même chanteur de devoir sentir quelque chose de si puissant mais qui ne sort pas de l'intérieur de vous. Donc j'ai dû trouver à l'intérieur de moi des choses que je pouvais avoir en commun avec elle pour avoir l'impression que ça sortait de mon propre de mes tripes, quoi. Et donc je pense que ce que j'ai vécu avec sa voix, ça m'arrivera plus jamais.
Oui, il faut préciser à nos éditeurs qu'on n'entendra pas votre voix, mais celle de Malika pour ceux qui regarderont ce soir. Mais du coup, vous allez me chanter un bout de Carmen.
J'ai chanté Carmen.
Mais je vous écoute. Est-ce que vous pouvez me chanter un extrait de Carmen?
Ça fait quoi déjà, Malika?
L'amour est
enfant de Bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je t'aime, prends garde à toi.
C'est pas mal. Bravo, joli moment.
Bravo, c'est magnifique, vraiment. Alors, comment ça s'est passé sur le tournage, Malika? Vous étiez, elle a été coach, Malika, sur le tournage. Elle était là pour donner des conseils.
Avant. Et elle m'a montré, en fait, je ne savais pas à quel point, justement, on pouvait être aussi... J'ai la chance de connaître aussi... J'ai une amie qui travaille dans le classique, mais dans la danse, qui est Marie-Agnès Gillot. Oui. Et déjà, à travers elle, j'avais pu percevoir à quel point c'était une discipline rigide. Nous, dans la variété, dans la pop, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de mettre le bras derrière, devant, se mettre accroupi, on fait ce qu'on veut. Ouais. Et puis là, quand j'ai commencé le coaching avec Malika, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas faire ce qu'on veut. Ouais. Bon, au début, je mettais mes mains à ma lèvre, elle est arrivée, elle m'a dit, non, tu peux pas mettre tes mains comme ça, ça va pas du tout. Puis j'avais les yeux avec mes grosses billes qui roulaient dans tous les sens, ça me venait pas du tout, faut que tu trouves un. Et elle m'a donné plein d'astuces comme ça, plein de petites règles qu'il fallait absolument respecter pour pouvoir être crédible sur scène en tant que elle. Et c'était merveilleux. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin du tournage, bah, j'ai repris ma vie de Amel Bent.
Ouais, ouais.
Et j'étais encore un peu Malika. Elle m'a dit, c'est encore, ouais. Parce que c'est la première prestation que je fais à la télé. On me dit, waouh, mais tu ne te tiens pas comme d'habitude.
Ah,
et
ouais.
Je crois que j'ai gardé cette posture en moi.
Ouais.
J'étais très droite, très digne, les épaules en arrière, le regard fier. Hein, parce que c'est aussi avec le cul que l'on chante. Hein,
oui,
c'est
là, là.
Oui,
c'est
j'ai vu
là,
ça. C'est aussi là, avec c'est le cul ça, que l'on chante, c'est vrai. C'est de, on c'est, le, on
c'est,
l'a
c'est, c'est, fait, ouais. C'est franchement un héritage pour moi, ouais. Parce que mine de rien, moi je me sens plus, parce que tout le monde me trouve des points communs avec Malika,
ouais.
Mais vous savez, je crois que moi dans le film, je suis plus Fadi que Malika.
Et bah, écoutez, il faut vraiment... Il y aura d'autres films avec Amel Bent. Vous avez d'autres propositions de tournage?
Si on m'offre
des beaux rôles comme ça, pourquoi
Malika,
pas.
Je dirais oui.
Merci
oui,
beaucoup.
Je ne ferai pas juste pour tourner.
Merci beaucoup Amel Bent. On a bien compris à quel point ce tournage avait été important pour vous et ça se sent vraiment quand on le regarde. C'est une histoire incroyable que la vôtre, Malika Bellaribi. Les sandales blanches ce soir sur France 3. Amel Bent, The Voice, évidemment, on vous retrouve à partir du 6 février pour la saison
c'est
10.
Ça.
On recevra nous Marc Lavoine dans quelques temps. Et
voilà,
absolument. Merci d'avoir été avec nous, Amel Bent, et merci à vous, Malika Bellaribi, d'avoir été là. Et je rappelle votre disque Melting Up, et on peut vous voir.
Ah oui, moi ça m'a donné. J'ai très envie de venir vous voir.
Et
je pense que vous allez avoir un nouveau public grâce à ce téléfilm.
Bah, il faudra venir à Lyon parce que je fais un concert de musique sacrée à l'auditorium de Lyon.
Il y a quand même des spectacles.
Il y a quand même des spectacles au mois d'avril. Institut catholique.
On espère que vous pourrez chanter.
Oui, j'espère.
Merci beaucoup. Merci à toutes les deux ce soir, les sandales blanches à ne pas manquer sur France 3. Voilà.
On va regarder. Alors, oui. Combien on parie, Valérie?
Je ne sais pas.
4 millions. Il y a Sam en face.
Ouais. Hein, mais vous avez vu le carton du film Le Sens de la Fête hier sur TF1, plus de 7 millions de personnes.
Et d'ailleurs, il y a eu quelqu'un sur Twitter qui a mis tous les scores qu'a fait tous les films de cette semaine où il y a eu plein de films.
Jean-Pierre Bacri, et c'était un carton
cartonné,
à chaque fois.
Ils ont tous cartonné. Un peu comme notre question d'ailleurs.
Oui.
Oh là là, quel enchaînement.
Oui,
notre
bravo.
Question, êtes-vous choqué de voir du public dans les émissions de variété? Samedi était diffusé Symphonissime sur France 2 et il y avait du public qui était relativement proche et c'était un vrai concert. Alors pourquoi les concerts sont interdits sauf à la télévision? Eh bien oui, à 54%, non 46%. Donc nos auditeurs sont partagés, Chevalier
donc,
Karine.
Encore une fois, on est content de voir des concerts
et
des spectacles au contraire, mais c'est vrai que cette question du public, c'est pourquoi oui à la télé et non en salle.
Voilà, Karine Chevalier nous dit comment ne pas être interpellé sur le fait qu'il y ait du public, on supprime la culture et de l'autre on divertit les gens. Avec des niaiseries, a-t-elle rajouté pour être honnête sur son tweet.
Ouais.
C'était très bien, c'était pas des niaiseries, mais bon après, chacun regarde les choses.
Ouais.
Soso Jackson nous dit, Nagui a dit que pour ses émissions, parce que c'est vrai que dans les émissions de jeu, il a raison, il y a aussi pas mal de public dans les émissions de jeu.
Ouais.
Et Nagui a dit que ce seront des personnes payées, donc testées, et certains font partie des équipes. C'était le cas aussi Symphonissime, il y avait aussi des gens des maisons de disques, de ceux qui accompagnent les chanteurs. Donc, mais voilà, j'espère qu'on reviendra très vite.
On a été interpellé par certains auditeurs sur ce sujet. Allez, on se retrouve demain, Gilles, pour d'autres infos.
Demain, on aura bien Artus Bertrand. On va parler vraiment d'un film événement qui va être diffusé
sur M6. Absolument. Et nous, on se retrouve avec un livre qui va vous donner la pêche, la forme et vous aider en ces périodes difficiles. À tout de suite.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio. Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio et un livre qui fait du bien, une petite parenthèse de bonheur ce matin avec la technique des étincelles, 80 clés pour rebondir en période de changement. Vanessa Caillère, bonjour.
Bonjour,
vous êtes
Valérie.
Coach et formatrice, vous êtes co-auteur avec Nadège Fougera de ce livre. Bonjour, bonjour Nadège, on vous connaît bien, enfin moi je vous connais bien, vous avez publié plusieurs livres tout à fait épatants, Paris-Tokyo, Allô la Terre, vous racontiez votre expérience d'expat et puis petit moment de solitude, gaffe et autres situations cocasses. Je ne sais pas si on le trouve encore.
Tout à fait, on le trouve encore. Hein.
C'est un petit bonbon des éclats de rire à chaque fois sur des gaffes qui nous sont toutes, qui nous sont arrivées ou pas. Parfois, il y a cette gaffe. J'en profite. Alors, je me souviens plus qui c'était. C'est un Japonais qui se retrouve à table et à qui on présente le plateau de fromage. Et qui prend tout le camembert parce qu'on ne coupe pas le fromage au Japon.
Exactement, il pensait que c'était une pâtisserie en fait.
Voilà, il pensait que c'était une pâtisserie.
Comme une pâtisserie.
Voilà, donc ça c'est voilà, c'était donc et ce livre la technique des étincelles est paru aux éditions de la Martinière. Alors 80 clés pour rebondir en période de changement ou en période de doute ou en période un petit peu compliquée comme celle qu'on vit. Alors peut-être qu'on va commencer avec vous Vanessa Caillère. On peut vraiment changer avec des petits trucs comme ceux que vous donnez.
Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai qu'on a eu envie d'écrire ce livre il y a 2 ans, parce qu'avec Nadège, on a beaucoup déménagé, changé de carrière. Et en fait, il y a 2 ans, moi, je suis rentrée de Hong Kong et j'ai trouvé ça très dur. Et je me suis dit, ça fait quand même 7 ou 8 ans que je suis coach et formatrice. Donc, j'accompagnais les changements et les transitions. Et c'est vrai que je me disais, même sur moi, c'est toujours aussi difficile.
Ouais.
Et c'est là où j'ai eu envie de raconter, et j'ai rencontré Nadège, comment on peut s'accompagner facilement, en fait, pour booster son énergie positive? Quelles sont toutes les petites choses qu'on peut mettre en place?
Oui.
Et après, c'est un livre sur mesure, c'est-à-dire que chacun va choisir ses petits coups de boost.
Chacun peut trouver une petite étincelle qui va faire qu'on a envie de rebondir. Nadège, pareil, oui, vous racontez vos déménagements.
Voilà, on disait 28 déménagements à toutes les deux. Voilà. On a dû faire 5 pays. Ça fait 18 ans qu'on était hors de France en revenant à chaque fois à Paris. Et on se rend compte qu'à chaque changement, en fait, un changement, au début, on dit c'est terrible, c'est négatif, c'est dur. Mais on peut ressortir, en fait, grandi du changement. Et c'est souvent, le changement, c'est un moment de se remettre en question et après d'être mieux à la sortie qu'à l'arrivée.
Mais ceux qui nous écoutent et qui disent « mais jamais je trouverai l'énergie, je n'y arrive pas ». Il y a des petits schémas dans lesquels on se retrouve. Par exemple, la courbe du changement, c'est le choc. Après, il y a le déni, la colère, la peur, la tristesse. Et puis on remonte, l'acceptation, le pardon, la quête de sens. Et puis, il y a aussi dans ce schéma, alors je vais essayer de le retrouver, mais vous pourrez peut-être l'évoquer, quand on se dit « j'y arriverai pas ». J'y arriverai pas, c'est en zigzag.
Ça monte.
Ça monte et ça descend. C'est « oui, je vais y arriver », »,« non, j'y arriverai pas », »,« c'est trop dur ». Et puis finalement. Donc comment on fait pour se persuader que ça peut
exactement.
Marcher?
Exactement. En fait, déjà, il faut accepter que le changement, l'incertitude, c'est dur, c'est compliqué. Et c'est vrai que là, je voyais une personne qui changeait de boulot la semaine dernière. Elle me disait, c'est comme des énormes oscillations. C'est-à-dire, un jour, on se dit, génial, ce changement de carrière, c'est au top. Et puis le lendemain, on se dit, là, ça ne va pas du tout. Donc en fait, notre livre, je dirais, il y a 2 choses importantes. C'est de se dire que ces périodes-là, il faut prendre soin de soi beaucoup plus que d'habitude. Vraiment se faire du bien, se chouchouter. Et la 2e chose, c'est qu'en fait, on est les seuls à être responsables de notre bonheur. Donc si jamais on ne prend pas soin de nous, de notre énergie, personne ne le fera à notre place, quoi. Donc c'est vraiment notre responsabilité. C'est ce qu'on raconte quand vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences. Le masque à oxygène tombe. On vous dit, mettez d'abord votre masque et puis après, mettez-le sur vos enfants. Alors qu'on dit, oui, mais c'est égoïste, mais c'est pas vrai. C'est si vous êtes bien, d'abord, vous pourrez vous occuper de vous et après, vous pourrez vous occuper des autres.
Ouais. Et en fait, il y a aussi ce camembert qui explique le vrai bonheur donc, ne dépend d'aucun être, d'aucun objet extérieur. Donc, il y a effectivement 50% de génétique avec des gens qui sont naturellement optimistes, naturellement combatifs. Et puis après, il y a l'état d'esprit interne et les circonstances.
Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Hein.
Ouais.
Et on est en train de le vivre en ce moment avec Vanessa. C'est plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous envoyez des ondes positives et plus vous vous arrachez et plus vous, comme on disait, il y a beaucoup d'action derrière tout ça. Il faut pas attendre que ça nous tombe dessus. Il faut vraiment y aller. Il faut dire, quand on disait la petite balade là, de sortir de chez soi.
Ouais. C'est quoi les petites balades?
En fait, on se dit, par exemple, il y a une étincelle, c'est finalement on démarre notre semaine, poser des petites actions, prévoir des choses qui vont nous faire plaisir. Mais en fait, c'est des choses simples, c'est-à-dire ça peut être une balade avec une amie, on emmène un thermos, on va marcher 1 heure le samedi matin, des petits moments en fait qui nous font du bien, des petits moments d'émotions positives. Alors c'est vrai, on parle beaucoup des émotions positives dans ce livre, à découvrir et à tester. Mais c'est plein de petites choses. Ça peut être le vendredi soir, on a fini sa journée de boulot. Bah, en fait, moi, j'aime bien, je prends un magazine, je m'allume une bougie parfumée, je mets de la musique. Voilà, c'est un petit moment de sérénité, un break après ma semaine. Et ça, c'est des moments qui nous rechargent, en fait. Voilà.
Mais ça marche vraiment parce que, vous savez, il y a des gens qui doivent nous écouter et être dubitatifs par rapport à ça en disant, voilà, c'est un peu de la méthode Coué, mais moi, j'ai tellement de problèmes dans ma vie que je n'y arriverai pas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Si c'est possible, on peut arriver à trouver... Il y a cet exercice aussi de faire des listes des bons moments
exactement.
Dans la journée.
Alors c'est marrant, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, il y a des moments effectivement qui sont très durs et des moments où on n'a pas le moral. Il y a un truc qu'on trouve très efficace et on l'a fait toutes les deux. Vous prenez un papier, un crayon, pas de trucs d'ordinateur et d'iPhone, machin là. Papier, crayon, et vous écrivez 100 bons moments. Alors vous dire non, c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Mais 100 moments, ça peut être le chocolat que je prenais avec ma grand-mère, ça peut être cette journée aujourd'hui avec nous, on est trop bien, je vais le mettre dans mes bons moments. En fait, 100 bons moments, et quand vous le faites, vous vous rendez compte que ça, vous avez tous 100 bons moments dans votre vie. Et même si vous dites, non, c'est trop dur, là, mes enfants sont partis, je suis au chômage, je suis sûre que vous avez des bons moments. C'était, donc, rien que de les écrire, vous les revivez, et en fait, les revivre, ça vous donne de l'énergie et ça vous donne la pêche. Donc, c'est un petit truc.
Le titre, en fait, la technique des étincelles, c'est-à-dire qu'il suffit d'une toute petite chose. C'est ça, une étincelle, c'est un moment fugace qui fait que ça va nous donner l'énergie, allumer le feu.
C'est Johnny, en fait. En fait, Johnny est avec nous.
C'est grande référence. C'est exactement ça, en fait. On se dit, il y a une petite action et finalement, ça va nous donner un vrai coup de boost. Alors, dans le livre, on parle des hormones du bonheur, la dose, en fait, la dopamine, l'oxytocine. Donc, vous allez voir, en fait, c'est aussi mécanique. Ceux qui doutent, en fait, c'est chimique, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui que si on va se balader une demi-heure, une heure, qu'on prend la lumière, on va avoir une dose de sérotonine. Ouais. Pareil, l'oxytocine, c'est un câlin, un enfant, pouvoir toucher quelqu'un. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué, il faut faire dans les gens proches, mais il y a toute cette... ça c'est vraiment chimique, et les émotions positives aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas éviter les émotions négatives, il faut les accepter, les vivre. Mais par contre, on peut se mettre des émotions positives. C'est-à-dire, par exemple, je passe 4 heures sur Zoom, c'est vraiment stressant, j'ai quelque chose de difficile. Et ben derrière, dans mon après-midi, je me dis qu'est-ce que je vais mettre comme petits instants qui vont me faire du bien. Et c'est différent. C'est-à-dire, chacun aura ses petits instants qui le feront du bien. Moi, c'est pas les mêmes que Nadège.
Chacun a ses petits instants. Moi, je trouve que le livre est très bien édité. Il est très beau parce qu'il est
Martinière, ils ont fait
orange,
un boulot incroyable.
Très beau. Franchement, le orange nous attire et nous donne envie de nous plonger, d'aller rechercher ces petites étincelles. Je vois expérimenter le Shirinyuku. Alors, c'est vivre pleinement dans le moment présent, profiter de la beauté des arbres. C'est vraiment des conseils simples et auxquels on pense pas toujours.
Exactement. Voilà. On disait, ce livre, comme vous disiez, on a voulu faire un livre qui était beau et qui faisait du bien. Donc c'est, en plus, on nous a même dit, dis donc, on en a pour notre argent parce qu'il est très épais, il est très lourd. Donc,
Et puis le papier est très beau. Et beau ce papier. Orange, c'est un choix. Vous qui êtes coach et formatrice.
Exactement. Alors en fait, ce orange, c'est assez rigolo parce qu'avec Nadège, on voulait vraiment une couleur qui pète et qui donne la pêche. Et en fait, ça, c'est l'histoire des petites synchronicités, c'est-à-dire les choses qui arrivent par hasard. En fait, je vais à une expo Rodin et on cherchait ce orange et je tombe sur un petit livre qui avait ce orange fluo. Et donc là, on s'est dit, ça ne peut être qu'orange fluo. Voilà. Et la martinière a été super parce qu'ils nous ont suivis et ils nous ont offert
un très beau livre. Voilà. Vous avez même les pages de chapitre, si vous les ouvrez, quasiment vous mettez au-dessus, ça vous fait bronzer, vous avez bonne mine.
C'est ce que je disais, ça donne... vous dites aussi attention aux connexions Internet, ça c'est un facteur d'angoisse et de stress. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément.
En fait, ça c'est une théorie pour faire rapide. Ouais. C'est-à-dire que quand en fait on passe notre journée sur des écrans, en réunion et tout, on imagine qu'en fait se détendre, ça va être dans un canapé avec un portable. Mais en fait, c'est pas ça. Se détendre, se recharger, ça va être vraiment connecté sur ses 5 sens. Donc faire quelque chose, ça peut être... faire la cuisine, on l'a fait beaucoup en ce moment, bien sentir les odeurs des légumes, des fruits. Et en fait, vraiment se connecter à ces 5 sens, c'est ça qui va nous recharger.
Oui. Ce livre, vous avez mis en application, j'imagine, un certain nombre de ces...
Mais plein. C'est pour ça qu'on disait, c'est tester et approuver. C'est pas de la philosophie, etc. On a voulu faire un catalogue de plein de choses. Si ça vous intéresse, après, vous pouvez creuser. Mais l'idée, c'est de le rendre public pour que ça fasse du bien aux gens.
Commencez par quoi, alors, si on se dit, j'ai envie de me prendre en main, puisque le message, quand même, est vous êtes vous l'avez dit au début, seul responsable de votre bonheur, de votre état d'esprit. Donc on commence par quoi ? Par cette liste, justement ?
Ouais, je trouve que c'est une assez bonne liste. Après, effectivement, même si c'est compliqué en ce moment, les connexions, en fait, on se rend compte que c'est cette fameuse étude de Harvard où on vous dit qu'ils ont suivi des hommes pendant 74 ans. Absolument. Ils ont dit à la fin, qu'est-ce qui reste ? La seule chose, c'est pas évidemment l'argent, c'est très important, on est bien d'accord, mais c'est la chose à la fin de votre vie, c'est les connexions positives que vous avez créées. Donc c'est les gens avec qui vous êtes. Donc c'est essayer au maximum de trouver les moyens d'échanger et de créer des relations positives.
Ouais. Et les relations toxiques, on en fait quoi ?
Alors, vous voulez qu'on vous dise celle d'Einstein qu'on adore ? Alors celle-là, elle n'est pas dans le livre, mais c'est le petit cadeau du jour.
C'est quoi ?
Éviter les gens négatifs.
Ouais.
Ils ont toujours un problème pour chaque solution. Alors vous réfléchissez à ça, vous pensez à quelqu'un qui vous saoule et là vous lui dites je veux plus te voir en fait tout de suite là. Et puis vous allez voir quelqu'un qui au contraire, quand il rentre dans la pièce, il apporte de l'énergie, essayez d'aller vers fuyez les gens toxiques, c'est dur mais franchement pendant un moment honnêtement faites-le.
Et on peut, si on est très négatif, devenir positif, vraiment ?
Nous, on est des bisounours, donc je suis sûre que oui.
En fait, c'est le premier schéma. C'est-à-dire qu'il y a 40% ou 50% qui dépendent de nous. Donc, moi, j'y crois beaucoup. Je pense qu'on peut vraiment changer. Et d'ailleurs, ce que je vois en accompagnant des gens, c'est que chacun a vraiment des ressources. Et c'est incroyable de voir les rebonds dans ces périodes de changement. Moi, j'ai une vision très positive et optimiste. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est incroyable, les changements, les gens se rapprochent de ce qu'ils font.
Il y a un côté positif.
En fait, moi, je suis bénévole pour une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui aide des entrepreneurs à rebondir suite à un échec. Et c'est vrai que c'est incroyable, à chaque fois, c'est pas une surprise, mais c'est un émerveillement de voir comment les gens rebondissent et retrouvent un nouveau départ, un nouveau job qui leur ressemble plus, dans lequel ils s'épanouissent plus. Voilà, c'est des chemins de vie.
Quand je me suis fait virer, moi, il y a une petite phrase de la télé, il y a une petite phrase qui m'avait beaucoup aidée, d'une amie, mais pas très proche, qui m'avait dit « Tu ne sais pas ce que tu gagnes à y perdre ». Et j'ai trouvé cette phrase très bien parce que on a l'impression qu'on perd, mais en fait, finalement, je suis à Sud Radio.
Et vous faites ce que vous aimez.
Et je fais ce que j'aime et j'ai découvert autre chose. Mais quand on a un choc et c'est une phrase, effectivement, vous avez une petite phrase comme ça, vous la gardez. Tu ne sais pas ce que tu gagnes à y perdre. La phrase à peu près. Et quand on perd, effectivement, on a l'impression que tout s'écroule. Et il faut trouver le côté positif à chaque fois, dans chaque chose. Je conseille vraiment votre livre, La technique des étincelles. Donc Vanessa Cayer, Nadège Fougera, c'est aux éditions de La Martinière. 80 clés pour rebondir en période de changement. Comme dirait mon libraire préféré, c'est pas neuneux. Je pense que chacun peut, parce que parfois on se dit développement personnel, chacun peut y trouver des choses, des petits trucs pour positiver et aller mieux surtout, et c'est ce dont on a besoin en cette période. On n'a pas trop parlé du physique un petit peu, mais booster son énergie physique, c'est important aussi. Et puis ce orange, vous avez raison, on bronze. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin. On se retrouve, nous, pour des débats un petit peu moins positifs, je pense, dans un instant. À tout de suite. Merci.